Vous êtes sur RTL.
.com.
RTL Matin.
Jérôme Florin.
Avec nous donc Gérard Mermet, sociologue, auteur du célèbre Francoscopie 2030. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en cette journée si particulière où l'on se retrouve en famille pour essayer de penser un peu à autre chose, même si évidemment on va beaucoup parler dans ces conversations de ce qui nous occupe, la crise du coronavirus. Vous étudiez, Gérard Mermet, le comportement des Français à la loupe depuis des dizaines d'années. Est-ce que vous avez des nouvelles du monde d'après ? On n'en entend plus parler.
Pas assez, justement. On n'en entend pas assez parler parce que c'est bien ça la préoccupation centrale. Gérer la crise actuelle ou les crises actuelles, on en parlera sans doute parce qu'il y en a plusieurs, c'est surtout penser à l'après-crise. Et il n'y a pas beaucoup de pensées qui y pensent, et notamment parmi les responsables, les acteurs, les politiques, les économistes, etc. Donc, les nouvelles d'après, non, il faut les inventer plutôt que de se contenter de les écouter.
Mais le sociologue que vous êtes, comment vous expliquez que le fait, après, lors du premier confinement, on parlait du monde d'après, c'était le mantra, et on n'en parle plus du tout aujourd'hui. Pourquoi ?
Parce qu'on est encore pris par le quotidien, parce qu'il n'y a pas de vision commune qui s'impose, et parce que donc il n'y a pas de référent pour l'avenir auquel chacun pourrait se raccrocher, qui donnerait d'ailleurs des perspectives aux Français, qui en réclament beaucoup, mais qui n'ont peut-être pas eux-mêmes l'imagination nécessaire pour remplacer celle défaillante des responsables.
La France, elle a connu des colères multiples. Il y a eu les gilets jaunes encore tout récemment. Là, c'est la peur qu'elle connaît. C'est un sentiment qui n'avait pas traversé les Français depuis la Deuxième Guerre mondiale, en réalité.
Oui,
c'est nouveau.
C'est une période évidemment tout à fait exceptionnelle, inédite. Ça a été beaucoup répété. Y a un mot qui la qualifie, mais pas seulement à propos de la crise sanitaire, c'est viral. C'est une époque virale. Virale parce que, bien sûr, il y a un virus qui nous a assaillis depuis le début de cette année. Mais virale aussi parce que on a bien vu les ravages de la viralité à travers les réseaux sociaux, à travers les fake news qui sont diffusées jour et nuit par ces mêmes réseaux sociaux. Et donc, cette viralité, elle fait qu'il y a beaucoup de peur, de crainte, de violence aussi, verbale, physique, matérielle, dans cette société, et que donc c'est pas un bon substrat pour développer l'après, justement.
Et pour développer l'unité aussi, parce que ça c'est un mot qui a beaucoup été employé par Emmanuel Macron, on en est loin.
Oui, dans son interview récente à l'Express, le président disait que il n'y avait pas d'unité, qu'il y travaillait, évidemment, c'est son rôle, mais ça va être très très difficile, parce qu'au contraire, cette année a été celle des fractures. On a 60 millions de Français qui sont devenus autant d'experts en virologie, comme il y a 60 millions d'experts en football quand on joue la Coupe du Monde, et y compris les experts, d'ailleurs, qui se sont contredits à longueur de temps, et ça n'a pas facilité les choses. Donc on a besoin d'une unité de pensée, d'une unité de valeur surtout. Nous sommes en période d'anomie, hein, c'est un mot un peu compliqué qui veut dire qu'il n'y a pas de système de valeurs partagé. Et tant qu'il n'y aura pas quelques valeurs fondatrices, notamment celles de la République, pour commencer, auxquelles on pourrait rajouter la laïcité, comme le propose Emmanuel Macron, on ne pourra pas avancer, puisque chacun tire dans un sens un peu différent de celui des autres.
Mais c'est français ou juste humain ? Parce que ces débats-là, on les a eus dans d'autres pays ?
On les a eus dans d'autres pays, mais avec moins de violence, me semble-t-il. Quand on regarde ce qui se passe ailleurs en Europe, alors, bon, on est plus de l'Europe du Sud latine que de l'Europe du Nord, sans doute, mais on est entre les deux, normalement. Là, j'ai trouvé qu'on manquait un peu de hauteur de vue, qu'on manquait un peu de, comme d'habitude, d'ailleurs souvent, de tolérance à l'égard du discours des autres, et que finalement, au lieu de faire consensus autour ou compromis autour de quelques idées fortes, eh bien, on essaye de condamner les idées des autres, parce que ne compte que celles de soi-même ou de sa propre tribu ou communauté.
Chacun est replié sur soi.
Oui, il y a un repli très fort, qui est la contrepartie d'ailleurs de la peur. Quand on a peur, on a tendance à se replier sur soi-même, sous son petit cercle familial ou amical, mais encore qu'amical, c'était plus difficile cette année, ouais. Et même familial. Et puis, surtout, à entrer dans le populisme, dans le corporatisme, finalement, à ne pas trouver d'agrément commun sur lequel on puisse fonder un avenir.
Gérard Mermet, est-ce qu'on attend trop de l'État? On lui demande beaucoup, et quand il nous donne des conseils, on le critique.
Oui, ben c'est une relation très singulière qu'on a avec l'État depuis très longtemps. D'ailleurs, ça n'a pas commencé à l'élection de 2017. L'État a infantilisé le peuple, les Français, les citoyens, qui d'ailleurs ont trouvé ça plutôt agréable. Mais de temps en temps, ils sortent dans la cour de récréation, et c'est de plus en plus souvent le cas, pour manifester, pour faire du bruit, etc., pour dire que les maîtres d'école ne font pas leur travail correctement, qu'il aurait fallu faire ça au lieu de faire autre chose. Donc c'est une réaction un peu infantile. Alors, qui est responsable de cette infantilisation? Est-ce que c'est l'État et les institutions, ou est-ce que ce sont les citoyens qui ont fait en sorte qu'on attende beaucoup de l'État? Difficile à dire, mais le fait est que les citoyens ne marchent pas avec l'État. Et ça va être très très compliqué, et pour les citoyens et pour l'État, donc d'inventer un avenir commun.
Et ça, c'est une contradiction typiquement française ?
C'est assez typiquement français, parce qu'on ne retrouve pas cette distinction, cette volonté de contrer ce que dit l'État, ce que disent les élites, parce qu'il y a cette détestation des élites qui a commencé il y a fort longtemps. On peut dire que ça a commencé il y a 30 ou 40 ans, et ça s'est accru parce que les élites, malgré leurs qualités, leurs connaissances et leurs compétences, eh bien, n'ont pas vu venir les différentes crises. C'était bien difficile, il faut dire, à leur décharge, et puis surtout de trouver des solutions et de les proposer à un peuple qui finalement ne se reconnaît pas dans ces solutions.
Justement, les élites qui proposent aux gens de se vacciner pour sortir de cette crise, et les Français, dans une majorité, pour l'instant en tout cas, n'en veulent pas.
Alors, les Français,
ça aussi,
on va dire qu'ils sont partagés.
Pasteur.
Je pense quand même que il va y avoir un mouvement vers la vaccination, non pas parce qu'il sera imposé, je crois que ça serait très difficile et peut-être, et sans doute pas souhaitable de le faire, mais il y aura un faisceau de raisons qui montreront que, eh ben, c'est mieux de se faire vacciner. D'ailleurs, il suffit de regarder l'histoire depuis Pasteur, qui était français quand même, ne l'oublions pas. On a quand même sauvé quelques millions de vies depuis l'invention du vaccin. Alors, on en a perdu quelques-unes, mais la balance entre le risque et de chaque côté, elle est très, très, très largement favorable au vaccin. Donc, on le fera, je pense, comme les autres, mais avec peut-être un petit peu de retard, comme c'est souvent le cas.
Donc, les mentalités vont évoluer vis-à-vis du vaccin?
Je pense qu'elles vont évoluer, d'autant qu'il est probable que le vaccin confirmera son utilité, et puis surtout qu'on nous promettra qu'en se vaccinant soi-même, on va aussi, on ne sera plus porteur de la maladie à l'égard des autres, parce que ça, c'est un facteur quand même de lien social qui sera nécessaire. Donc, dès qu'on aura cette confirmation, je pense que les mentalités vont un peu évoluer aussi.
Vous dites souvent qu'on a une aversion au risque.
Il y a une aversion au risque, c'est vrai.
Tout le monde n'aime pas le risque.
Il y a cette idée que l'invention du principe de précaution en France a été quelque chose de très étonnant, d'exceptionnel, puisque, à ma connaissance, il n'y a que le Brésil qui dispose d'un texte prévoyant ce principe de précaution, mais nous l'avons même mis dans la Constitution. Donc, ça témoigne de cette aversion au risque. Alors, c'est vrai que les risques sont très nombreux aussi. Nous vivons dans des crises multiples, parce qu'on parle de la crise sanitaire, mais tout ça se déroule sur fond de crises environnementales, sociales, demain peut-être politiques, et en tous les cas morales et culturelles, puisque les deux sont liés. Donc c'est vrai qu'il y a des raisons de ne pas être tout à fait joyeux à la perspective de 2021, mais en même temps, je pense que nous avons de bonnes raisons de l'être, parce que le pire n'est jamais sûr, et puis sans doute il est passé, c'est ce qu'on peut espérer.
On va voir justement ce qui nous attend après, selon vous en tout cas, mais on n'a jamais eu aussi peur de perdre nos libertés. Ça aussi, c'est un grand débat aujourd'hui.
Oui,
liberté de mouvement, liberté de se faire vacciner ou pas, liberté de filmer la police.
Oui, alors c'est un mouvement qui là aussi a débuté il y a quand même déjà quelques années. C'est tout le modèle républicain qui est en cause aujourd'hui. Le triptyque liberté, égalité, fraternité, c'est une promesse qui n'est plus tenue, en tous les cas beaucoup moins qu'elle l'a été pendant les 30 glorieuses. La liberté, ben on a vu qu'elle elle pouvait être, il y avait des accommodements avec la liberté, et puis la période de crise sanitaire a fait qu'on devait attenter à nos libertés au bénéfice de la sécurité. Dont les Français sont très friands, vous le disiez vous-même. Oui. Quant à l'égalité, on a bien vu qu'il y avait un arrêt de cette égalité croissante qu'on avait connue pendant les 30 Glorieuses il y a encore quelques années et qui s'est interrompue à partir des années 90. Quant à la solidarité, elle est un peu à géométrie variable, elle est éphémère, elle se déclenche quand il y a des attentats, quand il y a des grands événements qui font mal aux Français physiquement, mais aussi psychologiquement. Mais c'est une solidarité d'abord qui est un peu sélective et qui n'est pas durable. Donc ce triptyque-là est quand même largement atteint.
Il y a un débat qui est dans l'air depuis quelques années et qui est remis sur la table cette semaine par Emmanuel Macron dans son interview à l'Express, c'est le débat sur l'identité. Alors Nicolas Sarkozy parlait d'identité nationale, lui parle d'identité française, qui n'est pas tout à fait pareil. On a un problème avec notre identité ou c'est quelque chose qui est agité par nos dirigeants, où on a profondément un problème avec ce sujet-là?
Je crois que les choses ont été assez claires en termes d'identité pendant longtemps. La France était d'ailleurs en Europe le pays le plus unitaire d'une certaine façon. Regardez l'Angleterre, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni était constitué de plusieurs entités, plusieurs identités. Mmh. Pareil pour la Belgique, il y en a deux voire trois. L'Italie, il y en a au moins deux voire trois si on considère que Rome est différent de l'Italie du Nord ou du Sud. L'Espagne, il y a des régions qui ont des fortes identités.
En France aussi,
mais on avait quand même une certaine unité nationale. Et cette unité, elle a disparu parce que le national était une dimension qui était moins intéressante, dont on voyait moins l'importance. Et puis il y a eu l'Europe aussi qui a un peu bousculé et fait basculer ses appartenances. Donc aujourd'hui, les Français sont plutôt des gens sans appartenance ou avec des appartenances multiples dont ils ne savent pas trop quoi faire.
Cette crise, elle peut nous transformer, nous changer en bien ou en mal? Là, je vous demande un peu de prospective.
Je pense qu'elle va nous changer en bien. Moi, je pense que nous avons de bonnes raisons d'être optimistes et nous avons, c'est ce que je dis souvent, un devoir d'optimisme. Parce que si nous ne sommes pas optimistes, nous serons donc pessimistes et nous allons chercher et trouver plein de raisons d'avoir dit qu'on était pessimistes parce qu'on ne fera rien. Donc là, considérons que, vous savez, Shakespeare disait « Il naît de crépuscule qui ne présage une aube ». Eh bien, nous sommes peut-être, espérons-le, au crépuscule et bien de ce crépuscule naîtra à partir de 2021 une aube, c'est-à-dire peut-être une renaissance.
Espérons. En tout cas, votre prochain livre qui sort en janvier, Gérard Mermet, aux éditions de l'Archipel, a pour titre « Réinventons l'avenir ». Tout un programme. Est-ce qu'avec ce virus, on peut encore maîtriser notre avenir?
Mais c'est ce que nous avons tous à faire en commun.
Merci beaucoup d'être passé nous voir, Gérard Mermet, et joyeux Noël.
Joyeux Noël à tous.
8h50, 7h55, pardon. Vous avez mal aux cheveux.
RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Bowie chante Brel, Charles Aznavour s'essaye au disco, Clo-Clo à l'anglais. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.